Bonjour et bienvenue à cette première édition de Gilles en vrac pour emporter. Nous allons voir aujourd'hui en trois temps. Tout d'abord, quels objectifs nous allons poursuivre avec ce nouveau moyen de communication qu'est le podcast ou en français la balado-diffusion. Nous allons par la suite nous arrêter un petit peu sur les cinq premières années du blog Gilles en vrac que nous avons commencé il y a bientôt, effectivement, cinq ans. Par la suite, nous allons faire un petit texte, un extrait tiré d'Histoire du bon Dieu de Rainer Maria Rilke. Nous allons vous lire, avec plaisir, Le mendiant et la fière demoiselle. Mais pourquoi ce nouveau gadget, cette technique de la balado-diffusion? En fait, c'est parce que j'ai moi-même repris l'habitude de télécharger quelques pistes ou émissions tirées de sources publiques ou privées que je peux écouter sur mon iPod en me rendant au bureau, ou encore même en faisant mon marché, ou même mon ménage. Mon émission préférée, d'ailleurs, c'est la première à la carte publiée par la première chaîne de Radio-Canada qui rassemble en une demi-heure les meilleurs extraits des émissions de la journée. On écoute ça et on a l'impression de tout savoir en une demi-heure. C'est aussi parce que je trouve la parole et les petits montages de paroles et de musique que permet de réaliser assez facilement GarageBand, je trouve cela très amusant, plaisant et même sensuel jusqu'à un certain point en regard de la sécheresse de l'écriture. Je pense qu'on atteint les gens différemment avec l'audio. Mon objectif est aussi d'apprendre, de pousser sur les possibilités d'utilisation de ce médium comme je l'ai fait il y a 5 ans avec le blog. Et puis ça me rappelle la radio étudiante, comme j'en faisais au collège, ou encore les premiers temps de CIBL où j'avais une émission hebdomadaire pour les aînés. Il devait y avoir au moins 3 ou 4 d'entre eux parmi les auditeurs. Rejoindre d'autres gens, donc, que ceux que l'on rejoint avec un blog, avec l'écriture, les rejoindre autrement aussi. Mais j'ai aussi l'intention d'inviter des amis, des collègues, à venir discuter avec moi de la gouvernance associative, de l'engagement et du désengagement social, de la retraite aussi que certains copains commencent. Me semble que ce sera plus agréable de s'asseoir avec un café ou une bière autour d'un micro que de s'échanger des courriels. Il y aura sans doute un peu de montage à faire, mais on verra. Et j'aime bien faire la lecture aussi, ce que je me suis permis avec un premier extrait de Rainer Maria Rilke que je voulais aborder depuis longtemps. Et je n'ai pas été déçu. Vous serez indulgent, j'espère, la perfection n'est pas dans mes moyens pour le moment. J'ai bien répété quelques fois, mais pas suffisamment à mon goût. Vous serez indulgent aussi, je l'espère, mais en même temps, j'espère vous découvrirez, avec moi, le potentiel de ces outils. En écoutant la partition ou les dimensions musicales de l'accompagnement que j'ai à quelques reprises inséré dans ce petit montage. Alors c'est un rendez-vous, une ou deux fois par mois. Si vous avez téléchargé iTunes, alors c'est simple, vous pourrez vous abonner à Gilles en vrac pour emporter. Sinon, vous pourrez simplement venir télécharger ici le document en format MP3 que je laisserai sur mon carnet. Cinq ans bientôt. Effectivement, 1500 billets écrits depuis le 9 février 2002. C'est presque un par jour. Il faut dire que le rythme s'est un peu ralenti au cours des 2 dernières années. C'est une aventure commencée dans l'enthousiasme d'une technologie promettant de faire de chaque lecteur, chaque consommateur d'informations, un producteur, un commentateur, un rediffuseur, faisant de chaque internaute un filtre intelligent permettant de générer de l'ordre et de l'intelligence à partir du chaos, une façon de tisser une puissance collective de réflexion et d'action. Bon, disons que la soupe s'est quelque peu refroidie. Après avoir installé et désinstallé quelques dizaines de logiciels de blog, de gestion de contenu, d'écriture collective, les wikis entre autres, J'ai beaucoup appris sur les difficultés et les limites de ces logiciels, mais surtout sur les résistances et la lenteur du changement. Et aussi peut-être sur la nature humaine, la mienne comme celle des autres. Le potentiel d'une technologie ne peut à lui seul changer la nature de l'engagement des hommes et des femmes, la qualité de leurs relations entre eux. Tout au plus, le potentiel peut-il faciliter le mouvement qui se dessine, qui prend origine ailleurs que dans la technologie. Mais cette relative déception n'est pas nouvelle. Il y a plus de 10 ans, au début de 1996, alors que les CLSC commençaient à sérieusement s'informatiser, enfin, je prévoyais que tous auraient un site web dans les 6 mois, chaque intervenant ayant enfin son courriel. 6 ans plus tard, ce n'était pas encore fait. Pour les sites web, ça ne l'est pas encore. Respirer par le nez, mettre l'accent sur la formation et le plaisir. C'est peut-être ça que j'ai retenu, que j'ai à retenir de l'expérience jusqu'ici. Extrait des Histoires du bon Dieu de Rainer Maria Rilke, Le mendiant et la fière demoiselle. Il se trouve que nous fûmes témoins, l'instituteur et moi, du petit incident suivant. Chez nous, à l'orée du bois, se tient parfois un vieux mendiant. Il était là, à nouveau aujourd'hui, plus pauvre, plus misérable que jamais, à peine discernable à cause de sa mimique pitoyable, des lattes de la barrière de planches vermoulues sur laquelle il s'appuyait. Or, il se produisit qu'une toute petite fille vint vers lui en courant pour lui donner une pièce de monnaie. Cela n'avait rien en soi de remarquable, seule la manière dont elle le fit était étonnante. Elle fit une jolie révérence, tendit rapidement son aumône, comme si personne ne devait la remarquer, fit à nouveau la révérence et avait déjà disparu. Ces deux révérences étaient dignes au moins d'un empereur. Cela agaça tout particulièrement l'instituteur. Il voulait aller rapidement vers le mendiant, probablement pour le chasser de sa barrière de planches, car, comme on le sait, il faisait partie du comité directeur de l'office de bienfaisance et était très prévenu contre la mendicité dans la rue. Je le retins. Ces gens-là sont assistés par nous, on peut même dire qu'ils sont entretenus, dit-il en s'emportant. S'ils vont encore mendier dans la rue, c'est simplement de l'outrecuidance. Cher monsieur, lui dis-je, pour chercher à le calmer, mais il me tirait toujours vers l'orée du bois. Cher monsieur, répétai-je d'un air suppliant, il faut que je vous raconte une histoire. C'est si pressé, demanda-t-il d'un ton venimeux. Je pris la chose au sérieux. Oui, tout de suite, avant que vous ayez oublié ce que nous venons par hasard d'observer. L'instituteur se méfiait de moi depuis ma dernière histoire. Je lus sur son visage et lui dis, pour le rasséréner, « Il ne s'agit pas du bon Dieu, pas du tout. Le bon Dieu n'intervient pas dans mon récit. Il s'agit de quelque chose d'historique. » Avec ce mot, j'avais partie gagnée. Il suffit de prononcer le mot « histoire » et déjà tous les instituteurs dressent l'oreille. Car l'histoire est une chose absolument respectable, nullement insidieuse, et souvent pédagogiquement utilisable. Je vis l'instituteur nettoyer ses lunettes, signe que sa faculté visuelle venait de passer dans ses oreilles, et je sus habilement utiliser ce moment favorable. Je commençais. Cela se passait à Florence. Le jeune Lorenzo de Medici, qui ne régnait pas encore, venait tout juste de concevoir son poème « Trionfo di Bacco ed Arianna », et déjà tous les jardins en rétentissaient. Il y avait en ce temps-là des chansons vivantes. Sorties des profondeurs obscures du poète, elles passaient dans les voix et sur elles comme sur des esquifs d'argent. Elles dérivaient sans crainte vers l'inconnu. Le poète commençait une chanson et tous ceux qui la chantaient l'achevaient. Dans le Trionfo, comme dans la plupart des chansons de ce temps-là, on célébrait la vie, cette viole aux cordes claires et mélodieuses, avec son arrière-plan obscur, le tumulte du sang. Les strophes inégales s'élèvent jusqu'à une gaieté délirante, mais au moment où cette gaieté s'apprête à perdre le souffle, revient à chaque fois un refrain très court et très simple, qui, de ses hauteurs vertigineuses, semble se pencher et, saisi de terreur, fermer les yeux devant l'abîme. Voici ce refrain. Que la jeunesse est belle et nous donne la joie, mais qui la retiendra? Elle fuit et regrette. Si tu veux être gai, sois-le dès aujourd'hui, car demain, rien n'est sûr. Faut-il s'étonner que les gens qui chantaient ce poème aient été saisis de hâte et se soient efforcés d'édifier la fête sur l'aujourd'hui, le seul rocher sur lequel il convient de le construire? Et c'est ainsi que s'explique la presse des personnages sur les tableaux des peintres florentins, qui s'efforçaient de réunir sur une même toile tous leurs princes, toutes leurs femmes, tous leurs amis, car on peignait lentement, et qui pouvait savoir si, lors du prochain tableau, tous seraient encore aussi jeunes, aussi colorés, aussi unis. C'est naturellement chez les jeunes gens que s'exprimait surtout cet esprit d'impatience. Les plus brillants d'entre eux étaient réunis, après un banquet sur la terrasse du Palazzo Strozzi, et devisaient sur les jeux qui devaient avoir lieu prochainement devant l'église Santa Croce. Dans une loggia se tenait un peu à l'écart Paia degli Albizzi avec son ami le peintre Tommaso. Il semblait discuter avec une excitation croissante jusqu'au moment où Tommaso s'exclama soudain « Tu ne feras pas cela. Je parie que tu ne le feras pas. » Les autres devinrent attentifs. « Qu'avez-vous ? » demanda Gaetano Strozzi en s'approchant avec quelques amis. Tommaso se déclara « Paia veut, lors de la fête, tomber à genoux devant l'orgueilleuse Béatrice Alticieri et la prier de lui permettre de baiser le bord poussiéreux de sa robe. » Tous se mirent à rire, et Leonardo, de la famille Riccardi, remarqua « Paia fera bien de réfléchir. Il sait bien que les plus jolies femmes ont pour lui un sourire qu'elles n'accordent à nul autre. » Et un autre ajouta « Et Béatrice est encore si jeune. Ses lèvres ont encore trop la dureté de l'enfance pour savoir sourire. C'est pourquoi elle paraît si fière. » « Non, répliqua Paia degli Albizzi, avec une véhémence excessive. Elle est fière et sa jeunesse n'a rien à y faire. Elle est fière comme un bloc de pierre entre les mains de Michel-Ange, fière comme une fleur sur une image de la Madone, fière comme un rayon de soleil qui passe sur des diamants. » Gaetano Strozzi l'interrompit avec quelque dureté. « Et toi, Paia, n'es-tu pas fière aussi? Quand tu parles ainsi, j'ai l'impression que tu veux te mêler aux mendiants qui attendent à l'heure des vêpres dans le parvis de la Santissima Annunziata que Béatrice Alticieri leur fasse l'aumône d'un soldo en détournant la tête. » « C'est exactement ce que je veux faire, » s'écria Paia, les yeux brillants. Il se fraya un chemin à travers le groupe de ses amis, gagna l'escalier et disparut. Tommaso voulut poursuivre derrière lui. « Laisse-le faire, » dit Strozzi en leur retenant, « c'est en restant seul qu'il deviendra le mieux à la raison. » Puis les jeunes gens se dispersèrent dans les jardins. Sur le parvis de la Santissima Annunziata, une vingtaine de mendiants et de mendiantes attendaient, en effet, ce soir-là, l'heure des vêpres. Béatrice, qui les connaissait tous par leur nom et qui allait parfois rendre visite aux malades et aux enfants de leur pauvre maison de la porte San Nicolo, avait l'habitude, en passant, de faire à chacun d'eux l'aumône d'une petite pièce d'argent. Elle semblait aujourd'hui être un peu en retard. Les cloches avaient déjà appelé et seuls quelques échos restaient encore suspendus dans les clochers au-dessus du crépuscule. Une certaine agitation régnait parmi les pauvres, pour la raison aussi qu'un nouveau mendiant inconnu s'était glissé dans l'obscurité du portail et les autres mendiants s'apprêtaient, dans leur jalousie, à se défendre de lui, quand une jeune fille vêtue d'une robe noire, presque conventuelle, apparut sur le parvis et, gênée par sa grande bonté, allait de l'un à l'autre tandis qu'une des femmes qui l'accompagnait tenait ouverte la bourse où elle puisait ses petits présents. Les mendiants tombaient à genoux, sanglotaient et cherchaient à laisser une seconde leurs doigts usés sur la traîne de son simple vêtement, ou bien ils en baisaient le bord de leurs lèvres humides et balbutiantes. Elle avait fait le tour, il ne manquait aucun des pauvres que Béatrice connaissait bien. Mais soudain, elle aperçut encore, dans l'ombre du portail, un étranger vêtu de haillons et fut saisie de peur. Elle était troublée. Elle avait déjà connu tous ces pauvres quand elle était enfant et leur donner des aumônes était devenu pour elle un geste évident, un peu comme de tremper ses doigts dans les vasques de marbre pleines d'eau bénite qu'on trouve aux portes de toutes les églises. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il pût y avoir aussi des mendiants inconnus. Comment pouvait-on avoir le droit de les gratifier, eux aussi, alors qu'on n'avait pas acquis la confiance de leur pauvreté par la connaissance qu'on pouvait en avoir? N'était-il pas présomptueux et inouï de donner un aumône à un inconnu? Et prise dans le conflit de ses sentiments confus, la jeune fille passa à côté du nouveau mendiant comme si elle ne le remarquait pas et pénétra sous les voûtes hautes et fraîches de l'église. Mais quand l'office commença, elle ne put se souvenir d'aucune prière. La peur la saisit de ne plus trouver le pauvre homme sous le portail après les vêpres, alors qu'elle n'avait rien fait pour soulager sa détresse et que la nuit était proche, où les pauvres se sentent encore plus démunis et plus tristes que pendant le jour. Elle fit un signe à celle de ses femmes qui portait la bourse et retourna avec elle du côté de l'entrée. Là, tout était vide maintenant. Mais l'étranger était toujours là, appuyé sur une colonne, et il paraissait écouter le chant qui, comme venant de très loin et du plus profond des cieux, sortait de l'église. Son visage était presque entièrement couvert, comme il arrive quelquefois avec les lépreux qui ne dévoilent leur horrible plaie que quand on est près d'eux et qu'ils sont sûrs que la pitié et le dégoût parlent également en leur faveur. Béatrice hésita. Elle portait la petite bourse dans sa main et, en la tentant, n'y trouvait que de la menue monnaie. Mais, prise d'une résolution soudaine, elle alla vers le mendiant et, d'une voix incertaine et un peu chantante, et sans détourner ses regards incertains de ses propres mains, elle dit: Ce n'est pas pour vous blesser, monsieur. Il me semble, si je vous reconnais bien, que j'ai une dette envers vous. C'est votre père, je crois, qui a fabriqué dans notre maison la belle rampe de fer forgé. Vous savez, celle qui décore notre escalier. Plus tard, on a trouvé, un jour, dans la pièce où il lui arrivait de travailler chez nous, une bourse. Je pense qu'il a dû l'oublier, c'est certain. Mais le mensonge maladroit que formulaient ses lèvres obligea la jeune fille à tomber à genoux devant l'étranger. Elle glissa la bourse de brocart dans ses mains dissimulées sous le manteau en balbutiant « Pardonnez-moi. » Elle put encore sentir que le mendiant tremblait. Puis Béatrice, avec sa dame de compagnie, effrayée, retourna dans l'église. Par le porche resté ouvert un moment, parvint un bref chœur d'allégresse. L'histoire est terminée. Messer Palla degli Albizzi resta en haillons. Il fit don de tous ses biens et partit, pauvre et nu-pieds, dans la campagne. On dit qu'il doit avoir vécu plus tard dans la région de Subiaco. Quelle époque, dit l'instituteur. À quoi bon tout cela? Il était en passe d'être un débauché, et après cette aventure, il est devenu un vagabond, un original. Personne ne sait certainement plus rien du tout à son sujet. Si, répliquai-je modestement, son nom est parfois prononcé dans les grandes litanies des églises catholiques parmi ceux des intercesseurs, car il est devenu un saint. Les enfants ont aussi entendu cette histoire et ils affirment, ce qui irrite l'instituteur, que dans cette histoire aussi, il est question de bon Dieu. J'en suis moi-même un peu étonné. J'ai pourtant promis à l'instituteur de lui raconter une histoire sans bon Dieu. Mais bien sûr, les enfants savent mieux.